Chapitre 7, où la prédiction de Cagliostro s'accomplit, la place de grève. Le même jour, à 1 heure de l'après-midi, le greffier du Châtelet descendit avec 4 hommes armés dans la prison de M. de Favras et lui annonça qu'il allait paraître devant ses juges. M. de Favras avait été prévenu pendant la nuit de cette circonstance par Cagliostro et vers les 9 heures de la matinée par le sous-directeur du Châtelet. Le rapport général du procès avait commencé à 9h30 du matin et à 3h de l'après-midi durait encore. Depuis 9h du matin, la salle était encombrée de curieux qui s'y étaient entassés pour voir celui dont la sentence allait être prononcée. Nous disons celui dont la sentence allait être prononcée parce que personne ne doutait de la condamnation de l'accusé. Il y a dans les conspirations politiques de ces malheureux qui sont dévoués d'avance. On sent qu'il faut une victime expiatoire et qu'ils sont fatalement désignés pour être cette victime. 40 juges étaient rangés en cercle au haut de la salle, le président sous un dais. Un tableau représentant Jésus crucifié derrière lui et devant lui, à l'autre extrémité de la salle, le portrait du roi. Une haie de grenadiers nationaux garnissait le pourtour du prétoire, intérieurement et extérieurement. La porte était gardée par 4 hommes. À 3h15, les juges donnèrent l'ordre d'aller chercher l'accusé. Un détachement de 12 grenadiers, qui, le fusil au pied, attendait cet ordre au milieu de la salle, se mit en marche. Dès lors, toutes les têtes, même celles des juges, se tournèrent vers la porte par laquelle M. de Favras devait entrer. Au bout de 10 minutes à peu près, on vit reparaître 4 grenadiers. Derrière eux marchait le marquis de Favras. Les 8 autres grenadiers le suivaient. Le prisonnier entra au milieu d'un de ces silences effrayants que savent faire 2000 personnes entassées dans la même chambre quand apparaît enfin l'homme ou la chose qui est l'objet de l'attente générale. Sa physionomie était parfaitement calme, sa toilette était faite avec le plus grand soin, il portait un habit de soie brodé gris clair, une veste de satin blanc, une culotte pareille à l'habit, des bas de soie, des souliers à boucles et la croix de Saint-Louis à sa boutonnière. Il était surtout coiffé avec une rare coquetterie, poudré à blanc, et un cheveu ne dépassait point de l'autre, disent dans leur histoire de la Révolution les deux amis de la Liberté. Pendant le court espace de temps que mit M. de Favras à franchir l'intervalle qui s'étendait de la porte au banc des accusés, toutes les respirations demeurèrent suspendues. Quelques secondes s'écoulèrent entre l'arrivée de l'accusé et les premiers mots que lui adressa le président. Enfin, faisant de la main, ce qui était inutile, le geste habituel au juge pour recommander le silence, « Qui êtes-vous ? » demanda le président d'une voix émue. « Je suis accusé et prisonnier, » répondit Favras avec le plus grand calme. « Comment vous nommez-vous ? » « Thomas Mailly, marquis de Favras. » « D'où êtes-vous ? » « De Blois. » « Quel est votre état ? » « Colonel au service du roi. » « Où demeurez-vous ? » « Place royale numéro 21. Quel âge avez-vous ? 46 ans. Asseyez-vous. » Le marquis obéit. Alors seulement la respiration sembla revenir aux assistants. Il passa dans l'air comme un souffle terrible, comme un souffle de vengeance. L'accusé ne s'y trompa point. Il regarda autour de lui. Tous les yeux brillaient du feu de la haine, tous les poings menacés. On sentait qu'il fallait une victime à ce peuple aux mains duquel on venait d'arracher Ojard et Bézenval et qui demandait tous les jours, à grands cris, compendie, en effigie du moins, le prince de Lambesque. Au milieu de tous ces visages irrités, au milieu de tous ces regards flamboyants, l'accusé reconnut la figure calme et l'œil sympathique de son visiteur nocturne. Il le salua d'un geste imperceptible et continua sa revue. « Accusé, dit le président, tenez-vous prêt à répondre. » Favras s'inclina. « Je suis à vos ordres, monsieur le président, dit-il. » Alors commença un second interrogatoire que l'accusé soutint avec le même calme que le premier. Et puis vint l'audition des témoins à charge. Favras, qui refusait de sauver sa vie par la fuite, voulait la défendre par la discussion. Il avait fait assigner 14 témoins à des charges. Les témoins à charge entendus, ils s'attendaient à voir venir les siens lorsque, tout à coup, le président prononça ces paroles « Messieurs, les débats sont clos ». « Pardon, monsieur, » dit Favras avec sa courtoisie habituelle, « vous oubliez une chose. Il est vrai qu'elle est de peu d'importance. Vous oubliez de faire déposer les 14 témoins assignés à ma requête. » « La cour, » répondit le président, « a décidé qu'il ne serait point entendu. » Quelque chose comme un nuage passa sur le front de l'accusé, et puis un éclair jaillit de ses yeux. « Je croyais être jugé par le Châtelet de Paris, » dit-il. « Je me trompais. Je suis accusé, à ce qu'il paraît, par l'Inquisition d'Espagne. »« Emmenez l'accusé, » dit le président. Favras fut reconduit à sa prison. Son calme, sa courtoisie, son courage avaient fait une certaine impression sur ceux des spectateurs qui étaient venus là sans préjugés. Mais, il faut le dire, c'était le petit nombre. La retraite de Favras fut accompagnée de cris, de menaces, de huées. « Pas de grâce, pas de grâce !» criaient 500 voix sur son passage. Ces vociférations le suivirent de l'autre côté des portes de sa prison. Alors, comme se parlant à lui-même, « Voilà ce que c'est que de conspirer avec les princes, » murmura-t-il. Aussitôt la sortie de l'accusé, les juges entrèrent en délibération. À son heure habituelle, Favras se coucha. Vers 1 heure du matin, on entra dans sa prison et on le réveilla. C'était le porte-clés Louis. Il avait pris le prétexte d'apporter au prisonnier une bouteille de vin de Bordeaux que celui-ci n'avait pas demandé. « Monsieur le marquis, dit-il, les juges prononcent en ce moment-ci votre jugement. »« Mon ami, dit Favras, si c'est pour cela que tu m'as réveillé, tu pouvais me laisser dormir. »« Non, monsieur le marquis, je vous ai réveillé pour vous demander si vous n'aviez rien à faire dire à la personne qui est venue vous visiter la nuit dernière. »« Rien. » »« Mais réfléchissez, monsieur le marquis, quand le jugement sera prononcé, vous serez gardé à vue, et si puissante que soit cette personne-là, peut-être sa volonté sera-t-elle enchaînée par l'impossibilité. « Merci, mon ami, dit Favras, mais je n'ai rien à lui demander, ni maintenant ni plus tard. » « Alors, dit le guichetier, j'ai regret de vous avoir réveillé, mais vous l'eussiez été dans 1 heure. » « Si bien, dit Favras en souriant, qu'à ton avis, ce n'est point la peine que je me rendorme, n'est-ce pas ?»« Tenez, dit le porte-clés, jugez-en vous-même. » En effet, on entendait un grand bruit aux étages supérieurs. Des portes s'ouvraient et se refermaient, des crosses de fusils frappaient la terre. « Ah, dit Favras, c'est pour moi, toute cette rumeur. On vient vous lire votre jugement, monsieur le marquis. » « Diable, veillez à ce que monsieur le rapporteur me donne le temps de passer mes culottes !» Le guichetier en effet sortit et tira la porte derrière lui. Pendant ce temps, monsieur de Favras mit ses bas de soie, ses souliers à boucles et sa culotte. Il en était là de sa toilette lorsque la porte se rouvrit. Il ne jugea point à propos de pousser plus loin et attendit. Il était vraiment beau, la tête rejetée en arrière, ses cheveux à moitié décoiffés, son jabot de dentelle ouvert sur sa poitrine. Au moment où le rapporteur entra, il rabattit le col de sa chemise sur ses épaules. « Vous le voyez, monsieur, dit-il au rapporteur, je vous attendais, et en tenue de combat. » Et il passa la main sur son cou découvert, prêt à l'épée aristocratique ou au lacet roturier. « Parlez, monsieur, dit-il, je vous écoute. » Le rapporteur lut, ou plutôt balbutia le jugement. Le marquis était condamné à mort, il devait faire amende honorable devant Notre-Dame et ensuite être pendu en grève. Favras écouta toute cette lecture avec le plus grand calme et ne fronça pas même le sourcil à ce mot de « pendu », mot si dur à l'oreille d'un gentilhomme. Seulement, après un moment de silence, regardant en face le rapporteur, « Oh, monsieur, lui dit-il, que je vous plains d'avoir été obligé de condamner un homme sur de pareilles preuves. » Le rapporteur éluda la réponse. « Monsieur, lui dit-il, vous savez qu'il ne vous reste plus d'autre consolation que celle de la religion. » « Vous vous trompez, monsieur, répondit le condamné, il me reste encore celle que je puise dans ma conscience. » Sur quoi, monsieur de Favras salua le rapporteur, qui, n'ayant plus rien à faire près de lui, se retira. Cependant, à la porte, il se retourna. « Voulez-vous que je vous envoie un confesseur ? » demanda-t-il au condamné. un confesseur de la main de ceux qui m'assassinent. Non, monsieur, il me serait suspect. Je veux bien vous livrer ma vie, mais je réserve mon salut. Je demande le curé de Saint-Paul. 2 heures après, le vénérable ecclésiastique qu'il avait demandé était près de lui. Ces 2 heures avaient été bien employées. Derrière le rapporteur, 2 hommes étaient entrés, à la figure sombre, au costume patibulaire. Favras avait compris qu'il avait affaire au précurseur de la mort, à l'avant-garde du bourreau. « Suivez-nous, » avait dit un de ces hommes. Favras s'était incliné, en signe d'assentiment. Et puis, montrant de la main le reste des vêtements qui attendaient sur une chaise, « Me donnez-vous le temps de m'habiller ? » demanda-t-il. « Prenez-le, » dit un de ces hommes. Favras alors s'avança vers la table où étaient étalées les différentes pièces de son nécessaire, et à l'aide de la petite glace qui ornait la muraille, il boutonna le col de sa chemise, fit prendre un pli convenable à son jabot et donna le tour le plus aristocratique qu'il put au nœud de sa cravate. Puis il passa sa veste et son habit. « Dois-je prendre mon chapeau, messieurs ?» demanda le prisonnier. « C'est inutile, » répondit le même homme qui avait déjà parlé. Celui des deux qui s'était tu avait regardé Favras avec une fixité qui avait attiré l'attention du marquis. Il lui semblait même que cet homme lui avait fait de l'œil un signe imperceptible, mais ce signe avait été si rapide que M. de Favras était resté dans le doute. D'ailleurs, qu'avait à lui dire cet homme ? Il ne s'en occupa donc pas davantage, et faisant de la main au guichetier Louis un geste amical, « C'est bien, messieurs, dit-il, marchez devant, je vous suis. » À la porte attendait un huissier. L'huissier marcha le premier, puis Favras, puis vinrent les 2 hommes funèbres. Le sinistre cortège se dirigea vers le rez-de-chaussée. Entre les 2 guichets, un peloton de garde nationale attendait. Alors l'huissier, se sentant soutenu, « Messieurs, dit-il au condamné, remettez-moi votre croix de Saint-Louis. » « Je croyais être condamné à la mort et non à la dégradation, » dit Favras. « C'est l'ordre, monsieur, » répondit l'huissier. Favras détacha sa croix, et ne voulant pas la remettre à cet homme de justice, il la déposa entre les mains du sergent-major qui commandait le peloton de garde nationale. « C'est bien, » dit l'huissier, sans insister autrement pour que la croix lui fût personnellement remise. « Maintenant, suivez-moi. » On remonta une 20aine de marches et l'on s'arrêta devant une porte de chêne toute bardée de fer, une de ces portes qui font, lorsqu'ils les regardent, froid jusqu'au fond des veines des condamnés, une de ces portes, comme il y en a 2 ou 3 sur le chemin du sépulcre, derrière lesquelles, sans savoir quelle chose vous attend, on devine que c'est une chose terrible. La porte s'ouvrit. On ne laissa pas même à Favras le temps d'entrer. On le poussa. Puis la porte se referma soudain, comme sous l'impulsion d'un bras de fer. Favras se trouva dans la chambre de torture. « Ah, messieurs, » dit-il en pâlissant légèrement, « quand on conduit les gens dans ces endroits-là, que diable, on les prévient !» Il n'avait pas achevé ces mots que les 2 hommes qui le suivaient se jetèrent sur lui, lui arrachèrent son habit et son gilet, dénouèrent sa cravate si artistement mise et lui lièrent les mains derrière le dos. Seulement, en remplissant son office à compte de demi avec son camarade, le tortureur, qu'il avait cru voir lui faire un signe, murmura tout bas à son oreille « Voulez-vous être sauvé? Il est temps encore !» Cette offre ramena le sourire sur les lèvres de Favras en lui rappelant la grandeur de sa mission. Il secoua doucement et négativement la tête. Un chevalet était là tout près. On étendit le condamné sur ce chevalet. Le tortureur s'approcha avec des coins de chêne pleins son tablier et un maillet de fer à la main. Favras tendit de lui-même à cet homme sa jambe fine, chaussée de son soulier à talons rouges et de son bas de soie. Alors l'huissier leva la main. « Cela suffit, dit-il, la cour fait grâce au condamné de la torture. » « Ah !» dit Favras, « il paraît que la cour a peur que je ne parle. Je ne l'en remercie pas moins. Je marcherai à la potence sur 2 bonnes jambes, ce qui est quelque chose. Et maintenant, messieurs, vous savez que je suis à votre disposition. Vous devez passer 1 heure dans cette salle, » répondit l'huissier. Ce n'est pas récréatif, mais c'est curieux, dit Favras. Et il commença à faire le tour de la salle, examinant les uns après les autres tous ces hideux instruments semblables à de colossales araignées de fer, à de gigantesques scorpions. On sentait qu'à un moment donné, et aux ordres d'une voix fatale, tout cela s'animait, prenait vie et mordait cruellement. Il y en avait de toutes les formes et de tous les temps, depuis Philippe Auguste jusqu'à Louis XVI. Il y avait les crocs avec lesquels on avait déchiré les Juifs au XIIIe siècle. Il y avait les roues avec lesquelles on avait broyé les protestants au XVIIe. Favras s'arrêta devant chaque trophée, demandant le nom de chaque instrument. Ce sang-froid finit par étonner jusqu'aux tortureurs eux-mêmes, gens qui, comme on le sait, ne s'étonnent pas facilement. Dans quel but faites-vous toutes ces questions? Demanda l'un d'eux à Favras. Celui-ci le regarda de cet air goguenard familier au gentilhomme. Monsieur, lui dit-il, il se peut que je rencontre Satan sur la route que je vais accomplir, et je ne serais pas fâché de m'en faire un ami en lui indiquant pour torturer ces damnés des machines qu'il ne connaît pas. Le prisonnier avait justement achevé sa tournée, comme 5 heures sonnaient à l'horloge du Châtelet. Il y avait 2 heures qu'il était sorti de son cachot, on l'y ramena. Il y trouva le curé de Saint-Paul qui l'attendait. On a pu voir qu'il n'avait pas perdu les 2 heures d'attente, et que si quelque chose pouvait convenablement le disposer à la mort, c'est le spectacle qu'il venait de contempler. En l'apercevant, le curé lui ouvrit les bras. Mon père, lui dit Favras, excusez-moi si je ne puis vous ouvrir que mon cœur. Ces messieurs ont mis bon ordre à ce que je ne lui ouvrisse que lui. Et il montra ses mains garrottées derrière son dos. Ne pouvez-vous, demanda le prêtre, pour le temps qu'il sera avec moi, délier les bras du condamné? Ce n'est pas en notre pouvoir, répondit l'huissier. Mon père, dit Favras, demandez-leur s'ils ne pourraient pas me lier les mains devant au lieu de les lier derrière. Ce serait autant de fait pour le moment où j'aurai un cierge à tenir et mon jugement à lire. Les deux aides regardèrent l'huissier, lequel fit de la tête un signe qui voulait dire qu'il n'y voyait aucun inconvénient, et la faveur demandée fut accordée au marquis. Puis on le laissa seul avec le prêtre. Ce qui se passa pendant ce tête-à-tête suprême de l'homme du monde avec l'homme de Dieu, c'est ce que nul ne sait. Devant la sainteté de la religion, Favras décéla-t-il son cœur qui était resté fermé devant la majesté de la justice? Devant les consolations que lui offrait cet autre monde dans lequel il allait entrer, ses yeux, séchés par l'ironie, se mouillèrent-ils d'une de ces larmes que son cœur avait amassées et devait avoir besoin de répandre sur les objets chéris qu'il allait laisser seuls et abandonnés dans ce monde qu'il quittait? C'est ce que ne purent révéler ceux qui entrèrent vers 3 heures de l'après-midi dans son cachot et qui le trouvèrent la bouche souriante, les paupières sèches et le cœur fermé. On venait lui annoncer qu'il était l'heure de mourir. Monsieur, dit-il, je vous en demande pardon, mais c'est vous qui m'avez fait attendre. Alors, comme il était déjà sans habit et sans veste et qu'il avait les mains liées, on lui enleva ses souliers et ses bas, et on lui passa une chemise blanche par-dessus le reste de ses vêtements. Puis on lui mit sur la poitrine un écriteau portant ces mots: conspirateur contre l'État. À la porte du Châtelet, un tombereau entouré d'une garde nombreuse l'attendait. Il y avait dans ce tombereau une torche allumée. En apercevant le condamné, la multitude battit des mains. Depuis 6 heures du matin, le jugement était connu et la multitude trouvait qu'il s'écoulait un temps bien long entre le jugement et le supplice. Les gens couraient les rues, réclamant des pourboires aux passants. Et à quel propos des pourboires? Demandaient ceux-ci. À propos de l'exécution de monsieur de Favras, répondaient ces mendiants de la mort. Favras monta d'un pas ferme dans le tombereau. Il s'assit du côté où la torche était appuyée, comprenant bien que cette torche était là à son intention. Le curé de Saint-Paul monta ensuite et s'assit à sa gauche. L'exécuteur monta le dernier et s'assit derrière lui. C'était ce même homme au regard triste et doux que nous avons vu assister dans la cour de Bicêtre à l'essai de la machine de monsieur Guillotin. Nous l'avons vu, nous le voyons, nous aurons l'occasion de le revoir. C'est le véritable héros de l'époque dans laquelle nous entrons. Avant de s'asseoir, le bourreau passa au cou de Favras la corde avec laquelle celui-ci devait être pendu. Il en conserva le bout dans sa main. Au moment où le tombereau se mettait en marche, il y eut un mouvement dans la foule. Favras porta naturellement son regard vers l'endroit où ce mouvement avait lieu. Il vit des gens qui se poussaient pour arriver au premier rang et être mieux placés sur son passage. Tout à coup, il tressaillit malgré lui, car au premier rang, au milieu des 5 ou 6 de ses compagnons qui venaient de faire une trouée dans la foule, il reconnut, sous le costume d'un fort de la Halle, le visiteur nocturne qui lui avait dit que, jusqu'au dernier moment, il veillerait sur lui. Le condamné lui fit un signe de la tête, mais signe de reconnaissance et n'ayant pas d'autre signification. Le tombereau continua sa route et ne s'arrêta que devant Notre-Dame. La porte du milieu était ouverte et laissait voir, au fond de l'église sombre, le maître-autel flamboyant sous ses cierges allumés. Il avait une telle affluence de curieux que la charrette était obligée de s'arrêter à tout instant et ne se remettait en route que lorsque la garde était parvenue à rouvrir le chemin incessamment refermé par un flot de peuple rompant la faible digue qui lui était opposée. Là, sur cette place du parvis, à force de lutte, on parvint à opérer un vide. « Il faut descendre et faire amende honorable, monsieur, » dit l'exécuteur au condamné. Favras obéit sans répondre. Le prêtre descendit le premier, puis le condamné, puis l'exécuteur, tenant toujours le bout de la corde. Les bras étaient liés aux poignets, ce qui laissait au marquis l'exercice des mains. Dans sa main droite, on mit la torche, dans sa main gauche, le jugement. Le condamné s'avança jusqu'au parvis et s'agenouilla. Au premier rang de ceux qui l'entouraient, il reconnut ce même fort de la Halle et ses compagnons qu'il avait déjà vus en sortant du Châtelet. Cette persistance parut le toucher, mais pas une parole d'appel ne s'échappa de sa bouche. Un greffier du Châtelet semblait l'attendre là. « Lisez, monsieur, lui dit-il tout haut. Puis tout bas, monsieur le marquis, ajouta-t-il, vous savez que si vous voulez être sauvé, vous n'avez qu'un mot à dire. » Sans répondre, le condamné commença sa lecture. Cette lecture fut faite à haute voix, et rien dans l'accent de cette voix ne trahit la moindre émotion. Puis, la lecture achevée, s'adressant à cette foule qui l'entourait, « Prêt à paraître devant Dieu, dit le condamné, je pardonne aux hommes qui, contre leur conscience, m'ont accusé de projets criminels. J'aimais mon roi, je mourrai fidèle à ce sentiment. » C'est un exemple que je donne et qui, je l'espère, sera suivi par quelque noble cœur. Le peuple demande ma mort à grands cris, il lui faut une victime. Soit, j'aime mieux que le choix de la fatalité tombe sur moi que sur quelque autre au cœur faible que la présence d'un supplice non mérité jetterait dans le désespoir. Donc, si je n'ai point autre chose à faire ici que ce qui vient d'être fait, continuons notre route, messieurs. On continua la route. Il n'y a pas loin du porche de Notre-Dame à la place de Grève, et cependant le tombereau mit une bonne heure à faire ce chemin. En arrivant sur la place, « Messieurs, dit Favras, ne pourrais-je pas monter quelques instants à l'hôtel de ville ?»« Avez-vous des révélations à faire, mon fils ?» demanda vivement le prêtre. « Non, mon père, mais j'ai mon testament de mort à dicter. » J'ai entendu dire qu'on ne refusait jamais à un condamné, pris à l'improviste, cette dernière grâce de faire son testament de mort. Le tombereau, au lieu de marcher droit au gibet, se dirigea vers l'hôtel de ville. Une grande clameur s'éleva dans le peuple. « Il va faire des révélations ! Il va faire des révélations ! » s'écriait-on de tous côtés. À ce cri, on eût pu voir pâlir un beau jeune homme vêtu tout de noir comme un abbé et qui se tenait debout sur une borne au coin du quai Pelletier. « Oh, ne craignez rien, monsieur le comte Louis, » dit près de lui une voix railleuse. « Le condamné ne dira pas un mot de ce qui s'est passé place royale. » Le jeune homme vêtu de noir se retourna vivement. Les paroles qui venaient de lui être adressées avaient été dites par un fort de la Halle, dont il ne put voir la figure, attendu qu'en achevant la phrase, il avait abaissé sur ses yeux son large chapeau. D'ailleurs, s'il restait quelques doutes au beau jeune homme, ce doute fut bientôt dissipé. Arrivé au haut du perron de l'hôtel de ville, Favras fit signe qu'il voulait parler. À l'instant même, les rumeurs s'éteignirent, comme si la bouffée de vent d'ouest qui passait en ce moment les eût emportées avec elles. « Messieurs, dit Favras, j'entends répéter autour de moi que je monte à l'hôtel de ville pour faire des révélations. Il n'en est rien, et dans le cas où il y aurait parmi vous, comme c'est possible, un homme qui eût quelque chose à craindre si des révélations étaient faites, qu'il se tranquillise. Je monte à l'hôtel de ville pour dicter mon testament de mort. » Et il s'engagea d'un pas ferme sous la voûte sombre, monta l'escalier, entra dans la chambre où l'on conduisait d'habitude les condamnés et que l'on appelait, à cause de cela, la chambre des révélations. Là, les trois hommes vêtus de noir attendaient, et parmi ces trois hommes, M. de Favras reconnut le greffier qui lui avait parlé sur le parvis de Notre-Dame. Alors le condamné, qui, les mains liées, ne pouvait écrire, se mit à dicter son testament de mort. On a beaucoup parlé du testament de Louis XVI parce qu'on parle beaucoup du testament des rois. Nous avons le testament de M. de Favras sous les yeux et nous dirons cette seule chose au public, lisez et comparez. Le testament dicté, M. de Favras demanda à le lire et à le signer. On lui délia les mains, il lut le testament, corrigea trois fautes d'orthographe qu'avait faites le greffier et signa au bas de chaque page « Mailly de Favras ». Après quoi il tendit ses mains, afin qu'on les lui lia de nouveau, opération dont s'acquitta le bourreau, qui ne s'était pas éloigné de lui un seul instant. Cependant, la dictée de ce testament avait pris plus de 2 heures. Le peuple qui attendait depuis le matin s'impatientait fort. Il y avait là beaucoup de braves gens qui étaient venus l'estomac vide, comptant déjeuner après l'exécution et qui étaient encore à jeun. De sorte que l'on murmurait de ce murmure menaçant et terrible qu'on avait déjà entendu sur la même place le jour de l'assassinat de Launay, de la pendaison de Foulon et de l'éventrement de Berthier. D'ailleurs, le peuple commençait à croire qu'on avait fait évader Favras par quelque porte de derrière. Dans cette conjoncture, quelques-uns proposaient déjà de pendre les municipaux à la place de Favras et de démolir l'hôtel de ville. Heureusement, vers 9 heures du soir, le condamné reparut. On avait distribué des torches aux soldats qui faisaient la haie, on avait illuminé toutes les fenêtres de la place, le gibet seul était resté dans une mystérieuse et terrible obscurité. L'apparition du condamné fut saluée par un cri unanime et par un grand mouvement qui se fit parmi les 50 000 personnes qui encombraient la place. Cette fois, on était bien sûr, non seulement qu'il ne s'était pas échappé, mais encore qu'il ne s'échapperait pas. Favras jeta les yeux autour de lui, puis, se parlant à lui-même avec ce sourire ironique qui lui était particulier, « Pas un carrosse, murmura-t-il, ah, la noblesse est oublieuse. Elle a été plus polie pour le comte de Horn que pour moi. C'est que le comte de Horn était un assassin et que toi, tu es un martyr, répondit une voix. Favras se retourna et reconnut le fort de la Halle qu'il avait déjà rencontré 2 fois auparavant. Adieu, monsieur, lui dit Favras, j'espère qu'au besoin vous rendrez témoignage pour moi. Et d'un pas ferme, il descendit les degrés et marcha vers l'échafaud. Au moment où il posait le pied sur le premier échelon de la potence, une voix cria « Saute, marquis !» La voix grave et sonore du condamné répondit « Citoyen, je meurs innocent, priez Dieu pour moi !» Au 4e échelon, il s'arrêta encore et, d'un ton aussi ferme et aussi élevé que la première fois, « Citoyen, redit-il pour la 3e fois, je meurs innocent, priez Dieu pour moi !» Mais lui dit un des aides du bourreau qui montait l'échelle près de lui, « Vous ne voulez donc pas être sauvé ?»« Merci, mon ami, dit Favras, Dieu vous paie de vos bonnes intentions. » Puis, levant la tête vers le bourreau qui semblait attendre des ordres au lieu d'en donner, « Faites votre devoir, dit-il. » À peine avait-il prononcé ces mots que le bourreau le poussa et que son corps se balança dans le vide. Pendant qu'un immense mouvement se produisait à cette vue sur la place de Grève, tandis que quelques amateurs battaient des mains et criaient « bis », comme ils eussent fait après un couplet de vaudeville ou un grand air d'opéra, le jeune homme vêtu de noir se laissait glisser de la borne sur laquelle il était monté, fendait la foule et, au coin du pont neuf, montait vivement dans une voiture sans livrée et sans armoirie, en criant au cocher « Oh, Luxembourg, et à fond de train !» La voiture partit au galop. Trois hommes, en effet, attendaient avec grande impatience l'arrivée de cette voiture. Ces trois hommes étaient M. le comte de Provence et deux de ces gentilshommes que nous avons déjà nommés dans le courant de cette histoire, mais que nous croyons inutile de nommer ici. Ils attendaient avec une impatience d'autant plus grande qu'ils devaient se mettre à table à 2 heures et que, dans leur inquiétude, ils ne s'y étaient pas mis. De son côté, le cuisinier était au désespoir. C'était le troisième dîner qu'il recommençait, et ce dîner, à point dans 10 minutes, allait se détériorer dans un quart d'heure. On en était donc à ce moment suprême, quand on entendit enfin le roulement d'une voiture dans l'intérieur des cours. Le comte de Provence se précipita vers la fenêtre, mais il ne put voir qu'une ombre sautant du dernier degré du marchepied de la voiture sur le premier degré des marches du palais. En conséquence, il quitta la fenêtre et courut du côté de la porte. Mais avant que, dans sa marche toujours un peu gênée, le futur roi de France l'eût atteinte, cette porte s'ouvrit et donna passage au jeune homme vêtu de noir. « Messieurs, dit-il, tout est fini. Monsieur de Favras est mort sans prononcer une parole. Alors nous pouvons tranquillement nous mettre à table, mon cher Louis. Oui, monseigneur, c'était, par ma foi, un digne gentilhomme que celui-là. Oh, je suis de votre avis, mon cher, dit son Altesse royale. Aussi, nous boirons au dessert un verre de Constance à sa santé. À table, messieurs. » En ce moment, la porte s'ouvrit à 2 battants, et les illustres convives passèrent du salon dans la salle à manger.